Fréquence Mistral.
Bienvenue dans l'émission C'est l'heure de la paix, une émission sociale et culturelle qui va à la rencontre des Marseillais et des Marseillaises qui réinventent jour après jour la cité phocéenne. Pour cette première émission, je reçois Cécile Arnold, Éric Giraud ainsi que Lou Vera et Jim Grésillon pour nous parler d'Opéra Mundi, une association qui organise des saisons de conférences thématiques pour débattre des grands défis écologiques de notre époque. Nous parlerons également de la programmation de la saison 2023-2024 qui a pour thème l'eau, E-A-U. Aussi, nous parlerons du comité de jeunes programmateurs d'Opéra Mundi et de la fresque de l'eau qu'ils ont conçue. Bonjour tout le monde.
Bonjour.
Bonjour.
Bonjour, bonjour.
Cécile et Éric, j'aimerais que vous nous parliez d'Opéra Mundi, puisque vous êtes les fondateurs de cette association depuis 2014.
Oui, on est les fondateurs et animateurs de l'association depuis 2014. Et notre première conférence s'est tenue le 1er octobre 2015 et avait pour sujet, dès notre première conférence, on s'est intéressé à la question qui nous intéresse cette saison et dont on va parler plus tard, cette saison sur l'eau et ses enjeux de la terre aux océans. Voilà, donc effectivement, on organise des saisons de conférences thématiques et les questions d'écologie sont vraiment au cœur de nos questionnements. Et on part de l'écologie pour envisager les grandes questions contemporaines ou en tout cas des sujets de préoccupation qui font sens, on l'imagine, à tort ou à raison, pour le plus grand nombre. On essaie de toucher à travers ces conférences portées par des chercheurs, des intervenants qui sont à la fois des penseurs, mais aussi, ça peut être aussi des artistes, des auteurs, mais aussi des gens qui font, qui fabriquent, comme des architectes, ou des ingénieurs ou des boulangers qu'on a pu inviter aussi. On essaie d'inviter une diversité de personnes, de formats, mais toujours avec une forme d'exigence pour qu'ils soient capables de diffuser à la fois de la pensée, des connaissances qui soient accessibles à tous, sans pour autant être dans une forme de vulgarisation qui lisserait en fait ce qui réside au cœur même de notre projet, c'est-à-dire donner du sens, de l'intelligence, mais avec des outils critiques pertinents. Et c'est donc des saisons de conférences pluridisciplinaires et d'ateliers également pluridisciplinaires, des ateliers philo, des ateliers créatifs. On s'adresse à au grand public, mais également à des jeunes en leur faisant rencontrer donc ces penseurs, ces chercheurs ou ces faiseurs, ces porteurs de savoir lors de conférences ABCDR et également lors d'ateliers philo. Le débat, quelque chose d'important, Éric.
Oui, et d'ailleurs la devise d'Opéra Mundi, c'est « Le monde change, parlons-en ». Pourquoi est-ce qu'on a décidé avec Cécile à un certain moment de vouloir proposer des saisons comme ça de conférences à tous les publics, aux jeunes et aux moins jeunes? Parce qu'on est dans une époque qui est en train de changer, qui n'arrête pas de changer. On a eu l'impression depuis les années 2000, mais en fait ça avait commencé bien plus tôt, que quelque chose était en train de se passer. À un moment, on ne savait pas ce que c'était. Eh bien, la société changeait, la technologie devenait de plus en plus importante. Il y avait une accélération, il y avait les plastiques qui sont arrivés de partout sans qu'on s'en aperçoive. Le réchauffement climatique à partir de 2015, qui était là bien avant, mais à la COP21, quand même, ça a fait un électrochoc en France. Et on s'est dit, voilà, donnons des outils directement des scientifiques au public pour comprendre et lire et aussi percevoir le monde dans lequel on se trouve. Donc pour nous, ce qui est important, c'est la relation entre le scientifique et le public, c'est écouter le public et c'est que le public aussi intervienne. C'est pour ça qu'on a réfléchi, on n'a pas inventé la poudre, comme on dit, mais on a réfléchi à des petits dispositifs, autant dans les conférences pour les enfants que dans les conférences pour les adultes, pour que la relation soit un peu plus interactive ou un peu plus vivante. Et entre autres, à la fin des conférences adultes, il y a ce qu'on appelle des apéromondi. On ne prend pas de questions à la fin des conférences. On demande aux gens de se lever, on leur offre un verre d'eau ou un verre de vin bio. Et ensuite, 10 minutes après, on modère une conversation. Tout le monde est debout, comme dans un forum, et tout le monde peut intervenir. C'est modéré, c'est sonorisé. Et le public, en fait, a énormément, les individus, les gens, ont énormément besoin de dire ce qu'ils pensent, de réagir au monde dans lequel ils sont, et de s'exprimer personnellement et de communiquer avec les autres. Et donc la relation, la notion de relation entre les humains, entre autres, pour comprendre le monde, c'est une relation qui est une notion qui est très importante pour nous.
Voilà, cette idée de stimuler le dialogue, en fait, un dialogue qui est souvent, dont on pense qu'il est souvent coupé entre... déjà à l'intérieur même de la société, bien qu'il y ait tout un tissu associatif, etc. Mais il y a beaucoup de gens qui sont en demande de rencontrer des gens qu'ils ne connaissent pas pour discuter de sujets de société. Et aussi stimuler le dialogue entre les sciences, les experts et la société. Et ça dans les deux sens. C'est-à-dire que ce qu'on propose aussi, c'est à ces scientifiques de rentrer dans l'arène et de venir s'adresser non pas au peuple, mais de venir s'adresser aux gens simplement, et d'adresser non pas un message, mais des questions, en fait, des questions, et essayer de faire sens autour de ces questionnements, et d'aller toujours plus loin, en fait, dans cette forme d'éclairage, en fait, de cette complexité dans laquelle on est tous pris. Voilà, je voulais faire une petite aussi petite parenthèse sur la notion d'accélération. Le monde évolue très vite, mais de plus en plus vite, et c'est ce qui peut aussi expliquer, je pense, cette perte de sens qu'on ressent assez globalement. Je pense que ça serait difficile de dire autrement.
Je rebondis sur le fait de marcher parce que c'est quelque chose qui revient, et vous faites d'ailleurs des conversations marcher. Pourquoi marcher, c'est important, et pourquoi penser et marcher vont de pair?
En fait, c'est le mouvement. La pensée et la perception sont liées au mouvement. Et il n'y a pas d'un côté l'esprit et de l'autre le corps. Et je pense que quand on marche et quand on voit, quand on sent, quand on perçoit et quand on pense en marchant, eh bien, c'est bien cette action-là, biomécanique de la marche, du squelette que nous avons, mais en même temps celle du cerveau qui est indissociable. En fait, donc dans ces conversations marchées que l'on fait en partenariat avec l'association Le Bureau des Guides, c'est un autre format, c'est inventer des petits formats comme ça pour que l'aventure de la pensée soit une aventure et pas un pensum. Parfois on pense que des conférences c'est ennuyant, ça peut être long, etc. Et en fait ça peut être une aventure, une expérience des sens et de l'esprit incroyable. Et donc le principe des conversations marché, c'est que on est avec un intervenant, mais il y a aussi plein de mini intervenants qui sont à côté, et on marche, on se retrouve ensemble, et à des moments il y a des stations immobiles, et le conférencier ou la conférencière peuvent réagir à une situation et faire un petit statement, un petit développement, et à un moment il y a le pique-nique au milieu où la personne peut plus parler, où il y a des échanges qui sont faits avec le public, et après ça continue. Voilà, il n'y a pas une chose sans l'autre, il n'y a pas d'une certaine manière d'un côté les rouges et de l'autre côté les verts. En fait, les rouges servent à quelque chose et les marrons servent aussi à autre chose. On ne veut pas opposer les choses, et on veut plutôt les mettre en relation. Et là, dans la conversation marché, il y a la relation qui se fait entre l'esprit et le corps.
Et le paysage.
Et le paysage.
L'environnement dans lequel on traverse, et qui en fait vient susciter justement des incises, des réactions. C'est ce qu'on pourrait appeler une forme d'expérience de pensée sensible. Voilà. C'est-à-dire que tout se coagule, enfin vient s'interconnecter. On est vraiment interconnecté à la fois avec l'environnement qu'on traverse, et en même temps avec ses habitants, puisqu'il y a des habitants qui... des gens qui viennent témoigner lors de ces conversations marchées, et avec une pensée en mouvement aussi, puisque le conférencier n'a jamais traversé ce paysage, ne sait pas à quoi dans quel piège il est en train de tomber. Et puis en général, ça se passe très très bien. Et donc il réagit et il fait, au terme de cette première partie de la marche, une conférence, comme disait Eric, lors du pique-nique. Et on est avec une centaine de personnes. Enfin, c'est vraiment des moments très importants. Et on remercie d'ailleurs le Bureau des Guides de nous permettre ce partenariat, puisqu'ils ont une longue expérience. Ce sont des artistes marcheurs et une longue expérience de ces formes d'expédition au long d'une journée. Voilà.
Alors, spéciale dédicace aux artistes marcheurs et aux marcheurs tout court. Maintenant, je vous propose d'écouter une musique que j'adore sur le thème du changement climatique. Le groupe, c'est Feu Chatterton et le titre, c'est Monde Nouveau.
Souffle sur le pays, très chaudement. Dans un bain de foule dévot, à moitié épaillis. On se mouillait mollement, la glace fondait dans les spritz. C'était à n'y comprendre rien, tout le monde se plaignait en ville du climat subsaharien. On n'avait pas le moral, mais l'on répondait bien à tous les mots, le trait d'esprit serveur central. Amour. Qui nous foutait la frousse. Des poils en même temps, la clarté nous pendait au nez. Dans sa vive lumière bleue, nous étions pris, fait cerner. L'évidence était sous nos yeux comme une publicité qui nous masquait le ciel. Des millions de pixels pleuvaient sur le serveur central.
Alors maintenant, revenons sur la programmation de la saison 2023-2024. Alors pourquoi avoir choisi le thème de l'eau ? Et est-ce que vous pouvez nous présenter dans les grandes lignes la programmation de la saison à venir ?
Toutes nos saisons se succèdent avec une certaine forme de cohérence au fond, puisqu'on a commencé sur, en 2015-2016 sur les climats en question, le climat en question pluriel, puis habiter le monde, puis le vivant dans tous ses états. Et puis on évolue comme ça, en fait, chaque saison, ou en tout cas, nous apporte de nouveaux questionnements, et on est toujours amené à élaborer, en fait, la saison suivante ou les saisons, même de deux années suivantes, en tout cas, dans nos curiosités, s'orientent sur des thématiques qui se construisent au fil de notre propre expérience de programmateur. Et donc, cette saison sur l'eau, c'est une saison dont Eric me parle depuis, depuis 3 ans, qui prend beaucoup de sens aujourd'hui. Après cette saison sur le soin, prendre soin, que nous avons réalisé l'année dernière, qui s'intéressait donc à la question de la vulnérabilité, à la question de comment prendre soin, et effectivement cette question du prendre soin de l'eau, c'est une question qui est assez évidente, et qu'on va d'ailleurs, je ferai une parenthèse après, mais qu'on va explorer sous d'autres formes que des conférences au long de la saison.
Eh bien, l'eau, c'est vrai que l'eau, c'est un sujet qui est essentiel, qui est vital, mais qui en même temps est très complexe. Le cycle de l'eau, ça a l'air très simple, mais ça ne l'est pas. Il est à la base de notre... de la vie sur Terre, et on a bien vu qu'il est en crise, mais c'est pas depuis maintenant qu'il est en crise, il est en crise depuis longtemps, mais là ça devient peut-être un peu visible, ou ça passe déjà par la presse, dans les journaux, dans les radios, dans les télés, et il y a une urgence importante. On n'arrête pas d'extraire. On extrait l'eau des nappes phréatiques, on pollue les océans, on réchauffe la terre, et donc les glaciers disparaissent. En fait, c'est un système interdépendant du vivant. Et donc l'eau est vraiment le liant de ce système. Et il nous semble donc que c'est important, qu'il y a une urgence absolue, et en même temps une dissonance cognitive totale, c'est-à-dire qu'on sait que, en gros, pour parler trivialement, on va dans le mur, mais on y va tous ensemble. Et tout continue comme il doit continuer. Nous, Opéra Mundi, on travaille avec nos propres moyens, on essaye de faire ce qu'on peut faire, c'est-à-dire inviter des gens qui pensent, qui réfléchissent, qui font des recherches, qui sont des spécialistes. Et après, à côté, il y a aussi des collectifs, il y a aussi des activistes, mais nous, on n'est pas des activistes. Il y a aussi des gens qui essayent de trouver des procédés, de changer la société. Et je pense que tout ça aussi, c'est un système interdépendant auquel on a l'impression de participer, mais humblement. Et le système de l'eau, c'est la terre, c'est les océans, l'eau, c'est aussi les rivières, et l'eau, c'est les humains qui en pâtissent énormément de la pénurie ou du stress hydrique, mais c'est aussi tout le monde du vivant qui en pâtit. Et c'est pour ça qu'on invite dans cette saison-là tout un système interdisciplinaire. Il y aura des hydrologues qui vont parler du cycle de l'eau, qui est vraiment c'est une aventure incroyable à un niveau local, mais aussi à un niveau mondial. Des architectes, des ethnologues, des artistes, ça c'est un peu une première. S'il va y avoir des films documentaires sur de deux jeunes artistes, Pauline Julier et Suzanne Husky, qui ont travaillé l'une sur les mines de lithium au Chili, qui pompent l'eau des tribus ou des sociétés autochtones, des autochtones du coin, et de l'autre, il y aurait peut-être des solutions à l'eau et aux rivières, au fait que les rivières se creusent et n'arrêtent pas de s'enfoncer, donc de ne plus interagir avec les champs ou les terrains qui les environnent, si tant est qu'il y a encore des terrains. Et y a un acteur, un personnage qui s'appelle le castor, et on va avoir un film sur cet acteur-là. Et les castors ne font pas des barrages, mais ils ont une manière de ralentir l'eau, parce que le problème de l'eau, c'est qu'elle nous vient par exemple des Alpes, elle descend, mais elle descend, elle se creuse de plus en plus, elle descend de plus en plus vite quand il y en a, et ensuite elle va se déverser bien trop vite dans la mer. Et le castor, qui revient dans notre région par exemple, eh bien ralentit l'eau. et permet à l'eau d'imbiber les terrains et au lieu de raviner ou de couler, d'aller dans les terres et donc d'interagir avec, avec le milieu. Et donc là, bah, le castor, c'est incroyable. Il y a aussi le poulpe qui va intervenir, qui lui a une autre fonction que le castor. Mais voilà, on a aussi deux créatures non humaines, comme on dit, qui sont là et qui vont nous donner des exemples, qui vont créer qui vont peut-être produire un imaginaire chez les êtres humains et qui vont leur donner envie bah, de s'intéresser plus au sujet. Mais il y aura aussi des biologistes marins sur les posidonies, des plongeurs sous-marins, donc des gens très connus, des gens moins connus, des navigateurs aussi parce que c'est le rapport à l'espace aquatique et marin, des paléontologues et des philosophes, dont un philosophe italien, Roberto Casati, mais qui est francophone, et qui lui veut repenser la notion de mer et d'océan et reconceptualiser la notion d'océan de manière peu compliquée d'ailleurs, donc accessible à tous, mais c'est assez revigorant. Et voilà, bah c'est un peu ça que l'on peut dire. Mais c'est comme une aventure, en fait, le passage d'un environnement à l'autre. Et c'est vrai qu'il y a deux autres nouveautés dans ce cycle-là. C'est autant un nouveau site, et donc c'est Cécile qui s'y colle et qui y travaille, c'est un travail énorme, qui va permettre de, bah de, d'être, d'avoir une relation plus claire, peut-être.
Et de valoriser mieux nos, voilà, nos programmations.
Et nos documents,
voilà,
également.
Documents et enregistrements, les archives.
Et un comité de jeunes programmateurs. Et là, ici, on a deux jeunes représentants, Lou Vera et Jim Grésillon, donc appelés Lou et Jim, et et donc à qui on... on s'est dit quand même que bah, nous, on est des années 80, on a plus que 50 ans, il nous reste quelques années à vivre. Et on s'est dit, en même temps, c'est le principe d'Opéra Mundi, c'est de mélanger les publics. Et c'est de se dire aussi que dans la société dans laquelle on vit, face aux actualités et aux futurs possibles qui arrivent ou qui ne vont pas arriver, eh bien, il y a des jeunes générations qui se sentent bien plus impliquées, peut-être que des générations plus anciennes. En tout cas, il faut les mettre en avant et on le fait avec, bah, avec nos moyens. Et on a proposé tout d'abord à Lou, qui après a constitué un petit groupe, de faire une proposition d'intervenir une fois dans l'année et d'organiser un événement, de l'animer, de le présenter à leur manière, d'inviter qui ils veulent en lien avec le sujet. C'est comme une carte blanche en fait.
Alors du coup, Lou, est-ce que tu peux nous dire ce qui va se passer ?
Oui, bah, déjà l'ambition c'était de proposer quelque chose à un public assez varié, enfin même à des publics variés. Et donc pour ça on va se rendre dans des lycées au mois de février et peut-être même dans des résidences seniors ou dans des centres d'activité pour personnes âgées pour proposer des fresques de l'eau. Parce que c'est un format qui est collaboratif et qui permet d'intégrer un certain nombre de personnes. Et donc cette fresque de l'eau, donc ça ressemble à la fresque du climat ou à la fresque de la biodiversité. Elle permet de comprendre le cycle naturel et aussi le cycle anthropique de l'eau. Donc aussi le grand et le petit cycle de l'eau. Et il y a toute une partie débat à la fin. Qui permet aux participants à la fresque d'interagir. Jusqu'à présent, disons qu'on leur donnait un peu un déroulé avec des jeux et que on avait un peu une position de... La dynamique était assez verticale. Et là, l'idée, c'est plutôt qu'eux interagissent sur ce qu'ils connaissent de l'eau et qu'ils proposent éventuellement des solutions pour modifier leur rapport à la ressource ou l'envisager sous un autre angle. Mais on trouvait que cette partie débat n'était pas suffisamment développée. Donc, avec l'accord d'Éric et Cécile, on s'est dit que ça pouvait être bien de faire une table ronde qui soit consacrée plutôt à l'eau et ses enjeux dans le monde agricole.
Et Jim, tu peux nous dire quelque chose aussi sur le sujet ?
Oui, en fait, à la suite, donc on a été formés pour faire cette fresque de l'eau. Et à la suite de la formation, on a dégagé quatre grands axes. Grandes utilisations de l'eau douce, potable, en tout cas en France, c'était l'industrie, l'énergie, les usages domestiques et les usages agricoles. Donc on s'est dit, mais ça peut faire potentiellement 4 tables rondes. Sauf que, bon, en y réfléchissant, on a rapidement éliminé l'énergie qui restitue presque toute l'eau qu'elle a prélevée dans le système. On a hésité au sujet de l'industrie, mais on trouvait que c'était... Que les usages de l'eau pour les applications industrielles sont un petit peu trop éloignés de notre rapport à l'eau, justement. Et puis, on voulait éviter de tomber dans ce travers qui est de lier l'eau à un produit de consommation et donc rejeter ça sur la faute des citoyens, des individus qui doivent faire des efforts en consommant moins, bref. Donc, c'est pour cette raison aussi qu'on a éliminé les usages domestiques. Et on s'est dit, on va faire une table ronde sur l'agriculture. Et voilà.
Juste préciser à la suite de Lou et Jim que cette table ronde est programmée le 17 février, qui est un samedi matin, 11h, qui restent des horaires assez courus, que les gens apprécient parce qu'ils ont le temps de faire des choses avant, ils ont le temps de faire des choses après. Voilà, donc c'est...
Ni trop tôt, ni trop tard.
Voilà, donc ça c'est en février. Moi je voudrais dire qu'on va commencer quand même cette saison dès le samedi 23 septembre. Et on commence un lancement de saison, à la fois dans les nuages et sous l'eau. Puisqu'on a on a invité donc Jacques Rougerie, qui est un architecte marin qui est aussi membre de l'Institut, donc à l'Académie des Beaux-Arts à Paris. Donc c'est une sommité et qui, depuis les années 70, conçoit et construit aussi des projets un peu fous, sous-marins. Il collabore énormément avec des scientifiques aussi pour créer des modules en fait d'exploration de fonds sous-marins. Et c'est cette question qu'on pourrait dire utopique l'habite depuis ses débuts. Et on inscrit donc cette conférence le 23 septembre à la Fabulerie en partenariat avec le festival Allez Savoir, dont le sujet cette année, Festival des sciences sociales qui est proposé par le HESS et la ville de Marseille, dont le sujet cette année est Voyage en utopie, un sujet vraiment extraordinaire, donc qui donnera lieu effectivement à un festival extrêmement riche dès le jeudi, je crois. Voilà, jusqu'au dimanche. Et donc, on inscrit cette conférence en partenariat avec eux, puisque cette question de l'utopie et de la mer nous semblait très pertinente. Le soir du 23 septembre à 18h30, on sera au Théâtre de la Joliette. Là, pour le coup, dans les sommets ou en tout cas dans les zones polaires, avec une jeune chercheure extrêmement brillante, elle aussi, qui travaille à Météo France et qui dirige un laboratoire assez transversal et comme on aime, avec de multiples chercheurs, et qui travaille sur la façon dont la neige qu'on imagine blanche, et d'où le titre « Blanc comme neige, point d'interrogation », de façon interrogative. Elle étudie en fait la manière dont les résidus sur la neige peuvent influer à la fois sur le climat et également sur la fonte des neiges, la fonte des glaces, etc. Et donc c'est toujours cette idée de l'interconnexion qui paraît importante. Et un lancement également en fanfare, puisque le 4 octobre et le 16 novembre, on sera sur un questionnement de l'eau qui nous fera voyager depuis le nord-est du Brésil le 4 octobre avec la cacique Tanoné et son fils qui est chaman, Ururai, et nous serons à la friche de la Belle de Mai pour une rencontre performée, c'est-à-dire que c'est à la fois une rencontre où on va pouvoir discuter avec eux, mais aussi ils vont nous faire partager leur spiritualité et les liens qui les rattachent justement à la terre, mais aussi à la mer des eaux. Et puis le 16 novembre, avec une très grande personnalité, Vandana Shiva, là nous serons au MUSEM, et qui viendra nous parler de ses combats, les femmes, l'eau, la terre, des combats en fait dans lesquels elle s'est impliquée depuis les années 70, très très personnellement. C'est une intellectuelle, c'est une chercheure, philosophe des sciences, mais aussi physicienne, enfin en tout cas biologiste, qui a reçu le prix Nobel alternatif en 2009. Et qui aujourd'hui donc qui est célèbre aussi pour avoir gagné la première fois un combat contre Coca-Cola qui venait extraire l'eau en fait en Inde et qui par cette extraction en fait privait tous les paysans de leurs ressources en fait pour arroser et y compris pour boire puisque l'eau était en plus polluée définitivement. Voilà, donc 4 rendez-vous assez exceptionnels, 23 septembre de rendez-vous et 4 octobre et 16 novembre avec Vandana Shiva. Vraiment, je vous recommande de venir. Et puis un temps fort dont Eric va nous parler, un temps fort au FRAC.
Le temps fort intitulé au FRAC de l'eau, en fait, ce sera entre le vendredi 15 décembre et le samedi 16 décembre sur 2 jours. Et il y aura autant un hydrologue, Eric Serva, d'un institut de recherche réputé qui est l'IRD, qui va nous parler des ressources en eau d'un point de vue mondial, enjeu du siècle, mais aussi des chercheurs de jeune génération, comme Martin Schaffner, qui est éditeur des éditions Wild Project, et Clémence Mathieu, qui est ethnologue et paysagiste, et qui participe à un collectif Hydromonde. Ils vont publier un livre, d'ailleurs, dans quelques temps, sur les barrages et sur le principe des barrages. Donc c'est une question qui est très importante. Et là, ils vont aborder cet sujet du bassin versant du Rhône, et donc de partir de la, entre autres, de ces affluents comme la Durance, et de voir comment l'eau circule, comment est-ce qu'elle interagit. Mais il y a aussi, comme je le disais tout à l'heure, deux artistes, cinéastes, deux documentaristes qui vont nous proposer des films. Et avant, on aura engagé pendant le troisième trimestre 2023 des ateliers d'intelligence collective sur prendre soin de l'eau. Et là, comme l'année dernière, on va inviter des représentants et des facilitatrices en intelligence collective qui vont venir et qui vont faire un atelier de une conférence sur restitution et qui vont nous parler juste avant la conférence d'Éric Serva, donc le vendredi, de la façon dont ils ont abordé, dont ils ont développé leur pensée, comment est-ce qu'on peut prendre soin de l'eau en général, au quotidien, ou comment est-ce qu'on pourrait en prendre soin à un niveau local. On s'était dit, via ces ateliers, il est bien d'intéresser le public et de lui dire, et si vous étiez aux manettes ou si vous deviez agir dans votre ville ou agir à un niveau plus important, quelles seraient vos idées, que feriez-vous, quelles seraient vos propositions. Et d'une certaine manière, on sait que ça incapacite et que ça peut intéresser aux sujets en général, qui sont des sujets plus des approches plus théoriques, quand on se pose des questions sur « et moi, qu'est-ce que je ferais dans cette situation, dans ce monde-là, dans cette complexité-là ?»
Oui, et donc, toutes ces informations-là, on peut les retrouver sur votre site internet, parce que j'imagine que l'auditeur ne pourra pas tout pour retenir.
Ce programme, on peut le retrouver sur notre site opera-mundi.org. Vous pouvez aussi nous écrire à info@opera-mundi.org pour recevoir notre programme papier ou pour vous inscrire à notre newsletter. A priori, l'inscription à la newsletter, je la recommande très fortement. Pourquoi ? Une newsletter, c'est mensuel, c'est une fois par mois. Mais parfois, comme on vit dans un monde plein d'incertitudes, il arrive que certains événements se rajoutent à notre programmation ou que un retard de train, une grève intempestive nous oblige d'annuler un événement. C'est déjà arrivé et en recevant la newsletter, vous êtes au courant, et ça vous évite de vous déplacer pour rien, voilà. Ou alors, ça instille votre curiosité.
Et le programme papier sort à partir du 18 septembre. Il sera diffusé dans tout Marseille, mais aussi au niveau métropolitain. Et il faut savoir qu'on va intervenir au niveau métropolitain et peut-être ailleurs, dans les Alpes de Haute-Provence, comme les années précédentes. Et on sera à Vitrolles, on sera dans d'autres villes. On sera peut-être à Riane, près de Fort-Calquier. Tout ça, c'est à voir. Et c'est pour ça que c'est intéressant d'être inscrit à la newsletter, parce que c'est comme un rendez-vous mensuel qui vous donne des nouveautés qui ne sont pas nécessairement tout le temps dans le programme. Et le programme est vraiment fait par un studio graphique qui s'appelle le studio Frérot. Ce sont des jeunes graphistes et je trouve qu'ils sont très inventifs. Là, il y a une couleur bleue qui est assez belle. Il y a un jeu avec des lettres qui évoluent dans un espace et qui produisent du sens, mais pas que du sens aussi, mais de la beauté.
De la beauté et du sens, voilà deux mots primordiaux dont notre société a bien besoin aujourd'hui. C'est la fin de l'émission. Merci à vous.
Merci beaucoup.
Merci.
On finit en musique avec le groupe Mickey 3D et leur titre Respire.
Approche-toi petit, écoute-moi gamin. Je vais te raconter l'histoire de l'être humain. Au début y'avait rien, au début c'était bien. La nature avançait, y'avait pas de chemin. Puis l'homme a débarqué avec ses gros souliers. Des coups de pied dans la gueule pour se faire respecter. Des routes à sens unique qu'il s'est mis à tracer. Les flèches dans la plaine se sont multipliées. Et tous les éléments se sont vus maîtriser. En deux temps trois mouvements l'histoire était pliée. C'est pas demain la veille qu'on fera marche arrière. On a même commencé à polluer les déserts. Faut que tu respires. Et ça c'est rien de le dire. Tu vas pas mourir de rire. Et c'est pas rien de le dire. D'ici quelques années on aura bouffé la feuille. Et tes petits enfants ils n'auront plus qu'un œil. En plein milieu du front ils te demanderont. Pourquoi toi t'en as deux, tu passeras pour un con. Ils te diront comment t'as pu laisser faire ça. T'auras beau te défendre, leur expliquer tout bas. C'est pas ma faute à moi, c'est la faute aux anciens. Mais y'aura plus personne pour te laver les mains. Tu leur raconteras l'époque où tu pouvais manger des fruits dans l'herbe, allongés dans les prés. Y'avait des animaux partout dans la forêt. Au début du printemps, les oiseaux revenaient. Il faut que tu respires. Et ça c'est rien de le dire. Tu vas pas mourir de rire. Et c'est pas rien de le dire. Il faut que tu respires. C'est demain que tout empire. Tu vas pas mourir de rire. C'est pas rien de le dire. Le pire dans cette histoire, c'est qu'on est des esclaves. Quelque part assassins ici, bien incapables de regarder les arbres sans se sentir coupables. À moitié défroqués, 100% misérables. Alors voilà petite l'histoire de l'être humain. C'est pas joli joli et je connais pas la fin. T'es pas né dans un chou, mais plutôt dans un trou qu'on remplit tous les jours comme une fosse à purin. Il faut que tu respires. Et ça c'est rien de le dire. Tu vas pas mourir de rire. Et c'est pas rien de le dire. Il faut que tu respires. C'est demain que tout empire. Tu vas pas mourir de rire. Et ça c'est rien de le dire. Il faut que tu respires. Il faut que tu respires.